Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, 40 ministres de la Défense sur une base américaine en Allemagne. Une image forte et un message clair. Washington et ses alliés s'engagent à armer l'Ukraine dans la durée. Une solution contre la pénurie d'huile de tournesol, un autre effet de la guerre. Les industriels pourront la remplacer, mais sans vous en informer. Chips et biscuits modifiés, emballage inchangé. Continuez le combat, message d'Emmanuel Macron à ses troupes en vue des législatives. Le président réélu s'est rendu en début de soirée à son QG de campagne. Mauvais signal sur la balance, les enfants ont pris du poids pendant la crise sanitaire. Une étude conclut un doublement de l'obésité chez les plus jeunes. Le temps demain, on reste sur une belle journée avec un soleil dominant, à part peut-être dans le sud-ouest. L'invité éco à 22h20, on fait les présentations avec épicerie.com, une place de marché dédiée aux petits commerces de bouche. Et avant de retrouver la libre antenne, coup d'œil aux unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Aider l'Ukraine jusqu'au succès final. Washington a réuni aujourd'hui ses alliés en Allemagne. 40 ministres de la Défense sur la base américaine de Ramstein. Un nouveau bras de fer avec la Russie qui agite une nouvelle fois la menace nucléaire. Mais les alliés ne cèdent pas à l'intimidation. William Molinier, ils vont armer l'Ukraine dans la durée.
Oui, et les Américains ont d'ailleurs convenu de se retrouver tous les mois avec les alliés pour faire le point sur les besoins de l'armée ukrainienne, car c'est surtout la capacité à tenir sur le long terme qui sera déterminante dans cette guerre, comme l'a rappelé cet après-midi en Allemagne le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin.
Nous avons insisté sur ce que le soutien apporté à l'Ukraine va demander à notre industrie de la défense sur le long terme. Il va falloir faire face à la demande très importante en termes de munitions et d'armes. Cela signifie que nous doublons notre effort pour apporter notre soutien à l'Ukraine.
Parmi les annonces, Washington promet davantage d'aide aérienne pour l'Ukraine, en plus de la nouvelle enveloppe de 700 millions de dollars annoncée hier, ce qui porte à 3,4 milliards de dollars l'aide militaire américaine. La Grande-Bretagne, la République tchèque et la France ont elles aussi passé le cap en fournissant des armes offensives, en dépit des menaces de Moscou d'être considérés comme des co-belligérants. Même en Allemagne, un tournant majeur va être pris puisque Berlin s'apprête à livrer des chars de type Guépard, des équipements lourds, alors que sur le terrain, dans le Donbass, les combats s'intensifient sans que pour l'instant, d'un côté comme de l'autre, une victoire claire ne se dégage.
William Molinier, Washington met en garde ce soir contre une escalade en Transnistrie, cette région pro-russe de la Moldavie qui borde l'Ukraine et où une série d'explosions se sont produites. Les États-Unis se disent en fait à demi-mot préoccupé par le risque d'une extension du conflit à la Moldavie. Antonio Guterres a rencontré aujourd'hui Vladimir Poutine au Kremlin, un tête-à-tête, si ce n'est que cette même table de 15 mètres les séparait. Le patron de l'ONU demande un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Le président russe affirme être toujours ouvert aux négociations. Il croit à un résultat positif. La Russie qui coupe le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Gazprom annonce stopper dès demain ses livraisons à ces deux pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, la Bulgarie en particulier très dépendante au gaz russe. La guerre en Ukraine fait chuter les stocks d'huile de tournesol. Les industriels français sont maintenant autorisés à la remplacer, mais sans modifier les emballages. 6 mois de dérogation. 6 mois pourquoi ? Eh bien parce que c'est le temps qu'il faut pour fabriquer de nouveaux emballages avec la bonne liste d'ingrédients. Ça veut dire que les produits du quotidien, les chips, les biscuits qui affichent de l'huile de tournesol n'en contiendront plus forcément, Maud Descamps.
Alors il y a des cas pour lesquels les industriels auront l'obligation de coller un petit autocollant sur le paquet pour informer le consommateur. S'il remplace l'huile de tournesol par un produit allergène, par exemple l'huile d'arachide, même chose si le changement de recette ne respecte pas un label, comme par exemple la mention « sans OGM » ou « produits bio ». En revanche, pour tous les changements de recette qui ne représentent pas de risque d'allergie ou quand il n'y a pas de label, les industriels ont 2 mois pour l'indiquer sur l'emballage. En attendant, le consommateur devra se rendre sur le site de la Direction Générale de l'Alimentation pour avoir l'information, ce que regrette Nadia Zian de Famille Rurale.
Ça ne sera en aucun cas suffisant. On a 14 millions de consommateurs qui sont aujourd'hui en situation d'illectronisme. Si vous les renvoyez tous vers un site, eh bien, ils n'auront pas l'information que leur produit a changé dans les recettes. Ce qu'on craint, c'est si vous avez une aversion pour l'huile de palme, si vous n'avez pas les moyens de savoir qu'il y a de l'huile de palme dans votre produit, vous allez le mettre dans votre caddie. Et ça, c'est un sujet.
Par ailleurs, ces changements de recettes pourraient aussi avoir un impact sur le Nutri-Score. Là encore, les industriels n'ont aucune obligation de le signaler.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Deux jours après sa victoire à la présidentielle, c'était ce soir la première sortie du président réélu. Emmanuel Macron s'est rendu à son QG de campagne parisien, Jacques Serret, pour remercier ses équipes.
Oui, de quoi.
Cet après son élection, Emmanuel Macron a réservé sa première sortie pour ses équipes. Il est arrivé à son QG vers 18h15, une réception en petit comité, du moins sans la présence d'élus, de personnalités politiques ni même de journalistes. Environ 150 salariés bénévoles de la campagne et du parti La République En Marche étaient réunis autour de lui. Un discours d'une dizaine de minutes avant de partager un moment de convivialité durant une heure et demie aux côtés de son épouse Brigitte. Le président réélu, qui paraissait ému, leur a dit ceci: c'était très difficile car je vous ai demandé de faire une campagne dans un contexte très compliqué alors que je ne pouvais pas être candidat autant que je le voulais. Un immense merci à tous, a-t-il répété. Normalement, nous n'avions statistiquement, historiquement, aucune chance, mais nous l'avons fait. Et le chef de l'État en a profité pour remobiliser dès maintenant ses troupes. Je le cite: dans les semaines à venir, il va falloir gagner, inspirer, enthousiasmer et continuer à rassembler le pays sur le projet qui est le nôtre, autour du pacte scellé avec les Français, car c'est une nouvelle bataille qui débute pour Emmanuel Macron, celle des législatives. Il s'agit désormais pour lui d'obtenir une majorité de sièges dans l'hémicycle.
Jacques Serret, merci Jacques. Les partis défaits par la victoire d'Emmanuel Macron préparent leur recomposition politique avec les législatives en ligne de mire. Les Républicains ont arrêté leur ligne après un conseil stratégique ce matin à LR. Indépendance en clair entre LR et le camp Macron. Il faudra choisir une ligne qui ne fait pas l'unanimité. Alexandre Chauveau, chez les cadres, les Républicains, Damien Abad et Philippe Juvin ont refusé de signer.
Oui, de quoi continuer à entretenir le flou sur l'avenir de la droite. Et si le parti réaffirme sa ligne, ni macronisme ni lepénisme, l'incertitude demeure quant au sort réservé aux élus favorables à un rapprochement avec Emmanuel Macron. Christian Jacob refuse pour l'instant d'envisager une quelconque exclusion. Il y a toujours eu des sensibilités différentes, se défend le président du parti, pour qui LR reste un parti de gouvernement.
On n'est pas l'extrême gauche et la France insoumise. On n'est pas le Front National. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour organiser la révolution et pour bloquer le pays. Donc nous serons force de proposition. Et quand des textes vont dans le bon sens, on est capable de les voter, mais en toute indépendance. Voilà.
Christian Jacob qui rappelle également que chaque candidat investi par LR s'engagera à siéger dans le groupe des Républicains à l'Assemblée. Un engagement censé protéger le parti de potentielles futures défections, mais qui peine à dissiper les doutes. Damien Abad, Philippe Juvin et donc une vingtaine d'autres élus sont toujours tentés de franchir le pas, soit en bénéficiant du soutien explicite d'En Marche, soit en gardant l'étiquette LR, mais en faisant preuve d'une coopération renforcée avec la future majorité.
Alexandre Chauveau, les Insoumis ont dévoilé ce mardi leur affiche de campagne. Mélenchon, Premier ministre, vous la verrez dans toutes les circonscriptions. À gauche, les tractations en vue d'une alliance piétine. Yannick Jadot ne croit pas à une coalition derrière Jean-Luc Mélenchon. Les Insoumis rencontrent demain le PS en vue d'un accord sur le programme.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Au deuxième jour du procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, la parole était aujourd'hui aux deux représentants de la SNCF et SNCF Réseau, jugés jusqu'au 17 juin pour homicides involontaires. Le déraillement d'un corail avait fait 7 morts et des centaines de blessés en juillet 2013. Aujourd'hui donc, les représentants des deux entreprises se sont d'abord adressés aux victimes, Gladys Lafitte.
Ah oui, les deux hommes se sont l'un après l'autre tournés vers les bancs des parties civiles pour leur adresser des mots de compassion sincères, promet le représentant de l'entité SNCF Réseau. On ne peut pas oublier que ce jour-là, l'impensable s'est produit, dit-il solennellement. Il l'assure, la catastrophe a été un choc pour l'entreprise, un traumatisme énorme infligé à toutes les victimes et à la nation qui restera dans nos mémoires, abonde son collègue. Des pensées donc, mais pas d'excuses, hein, puisque la SNCF considère qu'elle n'est pas responsable pénalement. D'ailleurs, l'un des prévenus l'a dit aux victimes: tout au long du procès, je vais contester les fautes qui sont reprochées à SNCF Réseau. Dans la salle des parties civils font non de la tête un mouchoir à la main. Pour l'entreprise, c'est la qualité de l'acier qui a fait défaut et causé l'accident, alors que pour les experts mandatés par la justice, c'est la maintenance qui n'a pas été faite correctement au fil du temps. Deux thèses défendues par différents experts qui s'affronteront à la barre dès la semaine prochaine.
Gladys Lafitte au tribunal correctionnel d'Evry pour Europe 1. Une grosse opération de police au pied de la Tour Eiffel. Coup de collier contre les vendeurs à la sauvette qui reviennent en nombre avec le retour des touristes. Une vingtaine ont été interpellés, 200 kilos kilos de marchandises saisies, dont de nombreuses tours Eiffel miniatures évidemment. La préfecture de police veut protéger la tranquillité des visiteurs et des riverains. L'obésité chez les enfants a doublé depuis le début de la crise sanitaire. C'est le résultat d'une étude menée sur la quasi-totalité des enfants de 4 ans du Val-de-Marne, près de 50 000 petits écoliers dont beaucoup ont pris du poids. Faut-il y voir le résultat des confinements, des couvre-feux et autres restrictions de déplacement ? Explication du docteur Marie-Laure Barane, spécialiste de santé publique.
En 2018-2019, on a 8,6% d'enfants en surpoids. En 2020-2021, on en a 11,2%. En 2018, on a 2,8% d'enfants en obésité et en 2021, on en a 4,6%, donc ça augmente quand même beaucoup. On a relevé deux facteurs de risque à l'augmentation du surpoids et de l'obésité chez ces enfants. C'est être une fille et être dans une école en zone d'éducation prioritaire et prioritaire plus. Notre hypothèse, évidemment, c'est de dire que les confinements, la difficulté, voire l'impossibilité de faire du sport avec les autres, des modifications de régime alimentaire, tout ça concourt à penser que ça a dû avoir un impact. Vraiment, l'idée, c'est de s'emparer de ces questions parce que ces enfants-là sont encore jeunes, donc tout est possible. Toutes les bonnes habitudes sont encore à prendre.
Le docteur Marie-Laure Barane avec Yasmina Katou. Plusieurs mois après la démission de Mgr Michel Aupetit, Paris, un nouvel archevêque, Laurent Ulrich, a été nommé par le pape François. Le souverain pontife avait accepté en décembre dernier la démission de son prédécesseur après des rumeurs de liaison avec une femme. À 70 ans, Laurent Ulrich était jusqu'ici archevêque de Lille. Qu'est-ce que l'on sait de son parcours, Louis Salé ?
Et bien que Laurent Ulrich, contrairement à ses prédécesseurs à la tête du diocèse de Paris, s'inscrit dans un courant plutôt progressiste, l'archevêque lillois est réputé sensible à la cause des migrants et aux victimes de pédocriminalité dans l'église. Benoît de Cinetti le connaît bien, il est curé de la paroisse Saint-Hubert à Lille.
L'archevêque de Lille, ça a été être évêque d'un diocèse qui est très marqué par le catholicisme social, par la place des plus pauvres, par les questions de justice économique, etc. C'est un homme qui est bon, qui est droit, qui est à l'écoute. Ce sont des atouts quand même tout à fait importants dans le climat dans lequel on est, aussi bien dans le climat politique que dans le climat religieux, d'avoir quelqu'un qui peut avoir ses qualités d'écoute, de présence, de bonté. Voilà.
C'est aussi un évêque très expérimenté. Il a exercé 20 ans à Chambéry puis à Lille. Il est donc assez âgé. Il aura 71 ans cette année, ce qui veut dire qu'il pourrait ne rester que 4 ans à Paris, la limite d'âge étant de 75 ans. Il avait déjà tenté de devenir archevêque de la capitale en 2017 sans succès. C'est un poste très convoité. C'est l'une des figures les plus représentatives de l'Église dans le monde.
Louise Salé. Que se passe-t-il dans la tête d'Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter ? Bien malin qui pourrait percer les projets de l'homme le plus riche du monde pour cette nouvelle prise. Elon Musk défend une liberté d'expression absolue, comprendre le meilleur comme le pire. Et il a déjà donné quelques indices sur ce que pourrait être le Twitter de demain, Alexis Guilleux.
Oui, à commencer par davantage de transparence avec un algorithme public et donc une meilleure compréhension du fonctionnement du réseau pour les utilisateurs, la possibilité de corriger des tweets et surtout un allègement de la modération, c'est ce sujet qui ravive les fractures idéologiques de l'Amérique. L'émission phare de Fox News parlait hier soir d'une grande victoire pour la liberté d'expression, une sénatrice républicaine y voit un grand jour pour être conservateur sur Twitter. Il s'agit là de cette droite radicale américaine qui s'estime constamment censurée par les médias, par la gauche, et qui n'attend qu'une chose, le retour de Donald Trump sur Twitter, ce qui est pourtant bien loin d'être acquis. L'ancien président a fait savoir qu'il comptait rester sur sa propre plateforme, et d'ailleurs Elon Musk n'a jamais laissé entendre qu'il permettrait un tel retour. De l'autre côté du spectre politique, le New York Times craint la prolifération de la désinformation, alors qu'une partie du pays croit toujours que la dernière présidentielle a été volée. Plusieurs élus démocrates s'inquiètent de la concentration du pouvoir médiatique dans les mains des ultra-riches et pointent les intérêts commerciaux d'Elon Musk et de Tesla en Chine. Ce rachat de Twitter pourrait, selon eux, ouvrir la porte à une plus grande influence de Pékin sur le réseau.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. Vincent Lindon sera le président du jury du 75e Festival de Cannes. Penélope Cruz avait décliné cette proposition pour cause de tournage aux mêmes dates. Vincent Lindon qui prendra donc la suite du réalisateur Spike Lee. On vous présentait hier sur Europe 1 la nouvelle doyenne de l'humanité. Elle est française et elle s'est exprimée ce mardi pour la première fois. Sœur André a 118 ans et encore toute sa tête. Frédéric Michel l'a rencontrée pour Europe 1 dans son EHPAD à Toulon. Sœur André a voulu adresser au monde un message de paix.
Que le bon Dieu fasse que les gens s'entraident et s'aiment au lieu de se haïr. Si on partageait tout, ça serait beaucoup mieux.
Ma sœur, qu'est-ce que ça fait pour vous d'être doyenne de l'humanité ?
Une fierté, mais un désastre.
Un désastre ?
Oui, parce que je voudrais rendre aux autres ce qu'ils m'ont donné. J'aimais m'occuper des autres, j'aimais faire danser les enfants et je ne veux plus.
Je sais que vous aimez les chocolats et les calissons.
Ah oui, mais vous les avez mis où?
Ils sont là, ma sœur, ils sont là, regardez, tenez.
J'ai toujours été gourmand.
Voilà, Sœur André, nouvelle doyenne de l'humanité, au micro de Frédéric Michel et bien entourée, vous l'avez entendu, à l'EHPAD Sainte-Catherine-Labouré, à Toulon. Manchester City n'a pas peur du Real Madrid et le montre ce soir à domicile en demi-finale à la Ligue des Champions. Les Anglais ont rapidement ouvert le score. Ils mènent toujours 3-2 actuellement face au Real dans la seconde période. Il n'avait plus joué en compétition depuis un an. À bientôt 41 ans, Roger Federer va participer au tournoi de Bâle fin octobre et puis Rafael Nadal, de retour au Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine. Il était arrêté quant à lui depuis un mois en raison d'une fracture de fatigue aux côtes. Tout de suite la météo.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret, il a fait beau et chaud aujourd'hui dans le sud-ouest, ou l'inverse, c'est comme on veut. En tout cas, demain, ce sera une autre histoire.
Hein. Ah oui. On a dépassé les moyennes de saison, Alexandre, de 4 à 9 degrés, notamment entre les Landes et les Pyrénées-Orientales. On a relevé 26 à Biscarrosse et à Biarritz, 25 à Dax et Arcachon, 24 au Cap-Ferré et à Pau. Et demain, donc, le temps va se dégrader. Des averses se produiront dans le Pays Basque et le Béarn et elles pourront localement se mêler de coups de tonnerre en soirée. On va perdre aussi une dizaine de degrés au passage. Hein, il fera 16 par exemple à Biarritz. Un dégradé de voile nuageux s'étendra du Finistère à la Vendée jusqu'aux Pyrénées en passant par le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Occitanie, l'Aquitaine. L'impression devenant évidemment de moins en moins lumineuse en se rapprochant du sud-ouest où il faudra aussi compter avec des remontées de nuages sablonneux en provenance du Sahara.
Oui, encore. C'est épisode 3 là.
Oui, c'est ça. C'est la saga Sahara. Et sur le reste du pays, le temps s'annonce le plus souvent bien en ensoleillé une fois les grisailles du matin évacuées. On peut en trouver demain matin, des petites grisailles, des brumes, des brouillards entre le Nord-Pas-de-Calais et le Grand Est, sur la Côte d'Azur. Et puis le ressenti qui sera quand même très frais sur un quart nord-ouest en lien avec la bise, ce vent de nord-est. Les températures justement au lever du jour, il pourra faire un petit peu frais là où le ciel sera dégagé, notamment au nord et à l'est. 2 degrés hein, au lever du jour à Nevers, 3 à Reims et Clermont-Ferrand, 4 à Caen, Besançon, Grenoble. Voilà. Et puis les maximales, ça bouge pas beaucoup, mais enfin bon, 16 à 21 degrés en général avec 19 du côté de Paris, plus frais près de la Manche, 12 à 17 avec cette bise présente, et jusqu'à 22 à 24 des Charentes et du Limousin à l'Occitanie et dans le sud-est où l'on pourrait dépasser les 24 du côté du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et de l'Ardèche.
Allez Marlène, merci, on se fait la bise justement. Nouveau point météo sur Europe 1 avec vous à minuit.
À tout à l'heure.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Didier Hamo. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui retombe lourdement ce soir hein, après son sursaut d'hier.
Oui, le marché est secoué. Hein, il est vraiment nettement en baisse. Hein, moins 3,9%, pratiquement 4% de perdu sur le Nasdaq ce soir. 12 490 points. Le Dow Jones, moins 2,38%. 33 240 points. Toujours le spectre de l'inflation qui alimente les tensions sur les taux d'intérêt. Et puis les confinements qui se multiplient en Chine pèse aussi sur les anticipations de croissance mondiale qui sont en train d'être revues à la baisse par les analystes. Les valeurs de technologie ce soir aux États-Unis retombent très lourdement, moins 12%. Tesla, $877, alors que son patron Elon Musk va sans doute vendre des titres pour financer leur achat de Twitter, annoncé hier soir pour $44 milliards. Donc ça pèse terriblement sur Tesla ce soir. Et puis ça baisse aussi sur Apple, moins 3,6%, sur Facebook, Meta, donc moins 3,2%. Netflix perd 5,5%, Google moins 3,6%, Microsoft moins 3,8%. Il y a pas mal de publications de comptes trimestriels ce soir. On va voir ce que ça donne, mais c'est plutôt mal parti donc à Wall Street avec quand même un pétrole qui remonte un petit peu de 3%, $101,75 qui repasse les $100 le baril. L'euro descend encore 1,0640 face au dollar.
La bourse de Paris, Didier, a encore perdu du terrain pour la troisième séance consécutive.
Ça continue, moins 0,54%. 6414 points sur le CAC 40. Troisième séance de baisse, oui, ce qui porte à 4,5% la rechute du marché boursier depuis la fin de semaine dernière. Les secteurs les plus sensibles à l'activité économique sont restés chahutés, à commencer par l'automobile avec Faurecia, l'équipementier automobile, moins 10,7%, qui a décidé de suspendre son dividende. Valeo, moins 6%, 16,21€. Renault, moins 4%, 22,12€. Et puis Stellantis perd 3,5%, 12,39€.
Exception du jour, c'est le secteur pétrolier qui remonte.
Oui, puisque le baril repasse les 100$ ce soir, 103$ le baril, donc tout le secteur remonte effectivement. CGG, plus 3,7%, Vallourec, plus 3,1%. Morel et Prom, plus 2,5%, Total, plus 1,5%, 44,75€. Pour le reste, ça baisse partout en Europe. Le DAX à Francfort, moins 1,2%, Bruxelles, moins 0,3%, Madrid, moins 1,4%, Milan, moins 1%, et le CAC 40, donc, moins 0,54%, 6414 points.
Merci Didier Hamot. L'invité éco ce soir sur Europe 1, j'accueille Édouard Morange. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général et cofondateur d'épicerie.com, épicerie avec un Y. Je découvre, je me dis, tiens, une épicerie sur Internet, c'est peut-être un peu plus subtil que ça. Quel est le concept d'épicerie.com ?
Alors, c'est un peu plus qu'une épicerie, c'est effectivement une place de marché, mais digitale. On regroupe plus de 1200 commerçants et artisans alimentaires, des bouchers, des poissonniers, des primeurs, des fromagers, chez qui on fournit une solution pour leur permettre de vendre en ligne et de livrer leurs clients. Donc, ça permet à des familles de commander le repas du soir et de se le faire livrer à la maison dans un créneau d'une heure depuis les commerçants et les artisans de son quartier. C'est une alternative, en quelque sorte, à des grandes plateformes qui se lancent aujourd'hui.
Créneau d'une heure garantie, enfin je veux dire, c'est pas l'option premium, on parle de produits frais, donc il faut que ça aille vite.
Exactement, nous on n'est pas dans la course aux minutes entre le moment où vous passez la commande et le moment où vous vous livre. On est là pour vous apporter des produits pour votre repas du soir que vous allez cuisiner à la maison, et donc on est sur un créneau d'une heure, ce qui convient à la majorité des familles.
Vous êtes positionné en particulier sur le bio, sur le haut du panier, sur le haut de gamme ou pas forcément ?
Non, on en a vraiment pour toutes les bourses. On a effectivement des artisans et des commerçants du quotidien. Notre produit phare reste le fruit et légumes de saison, qui peut être bio ou pas, suivant les produits. Et puis, on a aussi des produits plus exceptionnels, comme des œufs de Pâques de grands chocolatiers, des bûches de Noël, ce genre de choses. On a vraiment l'intégralité des produits de votre shopping, de votre marché du samedi.
Alors, pour le visualiser un petit peu, vous vendez, je vois l'idée de la rue commerçante digitalisée. C'est ce qu'on voit quand on va sur votre site, un peu comme dans un jeu vidéo ou pas du tout ?
Alors, on n'est pas sur de la 3D, on n'est pas dans le métaverse.
Voilà.
Non, exactement. Là, on est effectivement sur un site qui va vous présenter les commerçants de votre quartier. Donc, vous rentrez votre adresse et vous voyez la photo de votre boucher, de votre poissonnier. Et c'est quand vous rentrez finalement dans sa boutique que vous avez le choix entre 100, 200, 300 produits. Vous allez choisir exactement ce que vous voulez mettre dans votre panier. Vous allez pouvoir d'ailleurs avoir un panier avec les fruits et légumes, la viande et le fromage. Et puis, une fois payé, ça va sonner dans la boutique, il va préparer la commande et on se charge d'amener les produits chez vous à l'heure que vous avez choisi.
Je commande des produits sur épicerie.com. Évidemment, je ne peux pas me les faire livrer n'importe où en France. Hein. On rentre son adresse en fait sur votre site et en fonction, on a un panel de commerçants autour de nous.
Exactement. On privilégie en fait la livraison des commerçants de quartier. Nous, on est très attachés à cette vie de quartier, à ce centre-ville où le commerçant alimentaire est un peu le cœur ou le poumon de la vie du quotidien. Et donc, on va effectivement vous proposer les commerçants qui sont entre 500 mètres et 5 km, ce qui vous permet effectivement d'avoir le choix entre plusieurs dizaines de bouchers ou de primeurs autour de chez vous.
Alors ça veut dire qu'on ne vous trouve pas partout en France, forcément, pas encore.
Alors aujourd'hui, nous sommes présents à Paris, évidemment, à Lyon, à Toulouse, à Lille, à Lyon également.
À Bordeaux.
Et à Bordeaux, voilà, exactement. Et puis, grâce à l'entrée récente de La Poste à notre capitale, on est en train de se développer au niveau national. Effectivement, donc très rapidement, on va être présent dans une trentaine de grandes agglomérations. Et à l'horizon 2025, on veut être présent partout en France.
Ça veut dire que ça marche ? Vous vous développez ?
Et alors le site se développe à grande vitesse. On a été effectivement en même temps poussé par le confinement pendant lesquels les gens ont découvert ce type de service. Et aujourd'hui, ça devient entre guillemets un service pratique pour ces produits de qualité. Les gens ont envie de soutenir le commerce de proximité. Ils le trouvaient jusqu'à présent pas toujours assez innovant, pas assez numérique. Et là, nous, on apporte une solution à des gens qui ne sont pas dans le numérique. À la base, les bouchers, les poissonniers, ce n'est pas leur métier. On leur apporte une solution pour que tous ensemble, ils soient au niveau de ce que les gens attendent en matière d'innovation et de digital.
Alors, si je me place du point de vue du commerçant, justement, j'ai un commerce, je veux apparaître et je veux vendre mes produits sur votre site. Je m'y prends comment ?
Alors, vous nous contactez sur le site épicerie.com et nous, on revient vers vous dans les 24 heures et on vous propose effectivement un contrat qui va être signé soit en ligne, soit sur place. On va créer ensemble un catalogue. Alors, l'avantage, c'est qu'on a un référentiel de produits, de plusieurs dizaines de milliers de produits, qui va vous permettre de bénéficier des photos, des descriptions de l'ensemble des produits les plus standards. Mais vous allez pouvoir ajouter, si vous avez une création, vos propres photos et vos propres produits. Et en 48 heures, comme ça, vous êtes capable, effectivement, d'être mis en ligne et de recevoir vos premières commandes. Donc, c'est extrêmement simple. Ça se fait de manière entièrement gratuite au niveau de la création du catalogue. On envoie le photographe chez vous gratuitement pour vous prendre en photo. Et ensuite, on va se rémunérer avec une commission.
Ah voilà, c'était la question. C'est pas un loyer, c'est une commission sur chaque produit vendu, en fait.
Exactement, c'est une commission sur l'ensemble des ventes qu'on apporte à la plateforme. Et effectivement, ça permet à des gens de se lancer sans prendre de risque, d'élargir un peu leur zone de chalandise. Ils vont avoir des nouveaux clients qui ne sont pas forcément les gens qui habitent dans les deux pâtés de maison autour de la boutique. On va être effectivement capable de livrer des gens qui habitent, y compris en dehors du centre-ville, et qui sinon auraient plutôt commandé sur une plateforme de la grande distribution ou d'une plateforme étrangère.
Comment vous livrez ? Vous sous-traitez ?
Alors, on travaille avec différentes sociétés de courses. Le groupe La Poste est évidemment historiquement un de nos partenaires privilégiés. On partage avec eux cette dimension à la fois nationale, mais aussi responsable. Et on livre 100% de nos produits en zéro émission carbone, c'est-à-dire qu'on fait du piéton, on fait du vélo, on fait du triporteur. Et on privilégie la livraison la plus courte et la plus rapide possible.
Est-ce que vous avez les moyens d'être compétitif ?
Alors, on est face à des acteurs internationaux extrêmement puissants, mais c'est vrai que grâce à La Poste, on a ce réseau extrêmement dense de flottes de livreurs un peu partout qui vont pouvoir aller chercher chez les commerçants. Et donc, notre ambition, effectivement, c'est de peser sur ce marché de la livraison alimentaire, ce qui fait l'objet, en tout cas, de la stratégie de La Poste.
Vous étiez déjà là avant le Covid ?
On était là avant le Covid, on a commencé en 2016.
Ouais, il y a un avant et un après ?
Il y a clairement un avant et un après. Effectivement, pendant le Covid, les gens se sont mis plus au digital. On l'a vu dans tous les secteurs, y compris sur l'alimentaire. Et donc, ils ont pris l'habitude de commander et ils sont restés fidèles à leurs commerçants de quartier qui les ont tant dépannés pendant cette période.
Alors, je voyais qu'il y a maintenant ce qu'on appelle un business de la flemme, la meilleure qualité, le meilleur produit, mais sans bouger de chez soi. Vous surfez aussi sur ce business de la flemme, Edouard Morange ?
Alors, je suis pas pour la flemme, parce que on se lève tôt, on va à Rungis le matin, au petit matin, retrouver nos bouchers, nos poissonniers.
Ah, je parle du côté du client. Hein.
Mais non, je pense que le client, effectivement, il est pris entre différentes obligations et parfois, il lui arrive de commander en ligne. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il continue à se rendre chez son commerçant le week-end quand il a le temps. Et puis voilà, c'est une solution pour améliorer le quotidien du client et apporter un peu plus de chiffre d'affaires aux commerçants de centre-ville qui sont en difficulté, il ne faut pas se le cacher, par rapport à cette digitalisation.
Alors, ils ont pris du retard, justement, les commerces de proximité. Vous parliez de l'aide que vous leur apportez à la digitalisation, à la visibilité sur Internet. C'est un retard qu'ils ont pris, justement, sur les mastodontes de la vente en ligne.
Bah, c'est sûr que c'est pas leur métier d'origine. Hein. Ils sont eux dans le sourcing des produits, dans le service, et ils ont besoin d'être accompagnés. C'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle pour leur permettre de rentrer dans cette nouvelle période.
Merci beaucoup, Edouard Morange, directeur général et cofondateur d'épicerie.com, place de marché en ligne donc pour les commerces de bouche, les petits commerces alimentaires.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
À la une de la presse, demain, mercredi 27 avril, ben décidément, il n'y en a que pour lui à la une des journaux. Lui, c'est Elon Musk. Pourquoi l'homme le plus riche du monde avale Twitter, se demande Libération. Elon Musk, c'est une ambition sans limite, titre aujourd'hui en France. Il cherche à marquer l'histoire et à se poser tout simplement en sauveur de l'humanité. L'insatiable appétit d'Elon Musk renchérit Le Figaro. Lui qui va contrôler Twitter, c'est aussi à la une des Échos. Sa vision controversée de la liberté d'expression émeut la classe politique aux États-Unis, mais il devra respecter nos règles européennes, prévient le commissaire européen Thierry Breton. Faut-il avoir peur de Twitter, s'interroge encore La Croix, alors que le milliardaire veut faire du réseau social un espace de liberté d'expression. Oui, mais sans modération, autrement dit, sans modérateur. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de la libre antenne avec Olivier Delacroix. Ça faisait longtemps, Olivier. Hein,
ça ne marche pas.
Ça marche, ça y est, ça marche.
C'est bon.
22h30 pile.
22h30 pile, exactement, mon cher. Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous, Olivier?
Eh bien, écoutez, ma foi, ça va. Nous sommes mardi. C'est un mardi un petit peu frisqué ici à Paris.
Vous trouvez?
Bah oui. Oui. Le printemps, on s'en est allé un petit peu se balader, mais il va revenir.
Donc vous êtes un grand frileux, vous?
Oui. Ouais.
Mais je le sais, c'est pour ça que...
c'est pourquoi. non, mais voilà, et à part ça, tout va bien. Hein, on est pendant 2h30 ensemble. L'actu va bien, tout va bien.
Vous êtes toujours très riche.
Bon, très riche.
Bien sûr.
Bon, et eh ben écoutez, on se retrouve à 23h tout à l'heure pour un point sur l'info.
À tout à l'heure, Olivier.
À tout à l'heure.